La semaine dernière, on a évoqué les impacts de l'homme sur la planète et le fait qu'on est entré dans une nouvelle ère géologique, l'ère de l'Anthropocène, qui est liée à l'impact de nos activités humaines sur notre environnement, en particulier à cause de la très forte accélération de notre consommation des ressources naturelles et des énergies fossiles depuis des décennies maintenant. Et aujourd'hui, on parle souvent du rapport Meadows comme d'une référence, une des premières critiques face à ce modèle de croissance. Et du coup, Elodie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est exactement le rapport Meadows et qui l'a écrit?
Alors, première question, qu'est-ce que c'est que le rapport Meadows? C'est un livre qui a été publié en 1972 aux États-Unis sous le titre de Limits to Growth. Et en français, la traduction du rapport, c'était Halte à la croissance avec un point d'interrogation. C'est souvent sous ce titre qu'on connaît cet ouvrage. C'est un ouvrage qui a été très diffusé. Il a été vendu à 10 millions d'exemplaires dans le monde et la publication a eu beaucoup de retombées à la fois scientifiques, politiques et médiatiques. Pourquoi c'est retombé? Parce que le message de l'ouvrage était très clair et ce message c'était le suivant: si on ne décide pas de stabiliser la population et la production à l'échelle mondiale de manière délibérée, le système planétaire va connaître un effondrement. C'est un ouvrage qui est structuré autour d'un ensemble de simulations mathématiques qui sont représentées par des graphiques, donc on va voir ça un petit peu plus tard. Et ces simulations, elles sont menées avec un modèle mathématique du monde qui s'appelle World 3. J'entre pas trop dans les détails sur le modèle, mais je pourrais répondre à des questions si vous le souhaitez. Quelles sont les hypothèses qui sont derrière les équations? Parce qu'il y a toujours des hypothèses intégrées dans les équations ne sont pas du tout, ne décrivent jamais le monde de manière complètement objective. Première hypothèse: par défaut, les variables de population et de production connaissent une croissance exponentielle. Donc, une croissance exponentielle, c'est une croissance très forte et c'est une croissance qui a la propriété d'avoir un temps de doublement qui est fixe. Deuxième hypothèse intégrée dans les équations, l'idée qu'il y a des limites qui sont finies, c'est-à-dire que cette croissance, elle va buter sur des limites et en particulier, ces limites, ce sont la capacité d'absorption de la pollution et les ressources naturelles. Troisième hypothèse intégrée dans les équations, l'idée qu'il y aura un retard dans la prise en compte des limites, c'est-à-dire que quand le système va buter sur les limites, on ne va pas s'en rendre compte tout de suite et on ne sera pas capable non plus d'ajuster tout de suite la trajectoire, de rectifier le tir tout de suite. Qui a produit le rapport des limites au club des limites à la croissance? C'est une question importante parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien connu. Ce rapport, ça a été le résultat d'une démarche plurielle qui a impliqué plusieurs acteurs. À l'origine du rapport, un homme d'affaires italien qui s'appelle Aurelio Peschei, c'était un cadre dirigeant de l'entreprise Fiat. C'est quelqu'un qui avait eu beaucoup de responsabilités dans différentes structures multinationales, publiques et privées, et qui avait été très investi notamment dans le développement industriel de l'Amérique du Sud. En 1968, voilà, c'est ça, il est très préoccupé par un certain nombre de phénomènes, notamment la croissance démographique. À l'époque, on parle de la bombe P, on parle beaucoup d'explosion démographique. C'est le moment, en fait, de l'histoire de l'humanité où la croissance démographique est la plus forte. On se préoccupe beaucoup aussi de la disponibilité des ressources mondiales. Donc, c'est souvent des préoccupations qui sont liées. Et puis, il y a un essor du mouvement écologiste qui est associé aussi à d'autres mouvements militants. Donc, pour info, le premier jour de la Terre a eu lieu en 1970. Donc, Aurelio Peschei fonde le Club de Rome en 1968 avec des scientifiques, des hommes d'affaires, des personnalités politiques. C'est une structure qui est représentative d'une certaine élite scientifique et économique. Et Peschei veut apporter un éclairage sur toutes ces grandes préoccupations qui sont très présentes, en tout cas en Occident à l'époque. Son ambition, c'est de créer un modèle mathématique du monde et d'apporter un regard objectif sur le comportement de la planète Terre. Donc l'idée, ça n'est pas de faire de la prédiction, de dire ce qui va se passer, c'est plutôt d'examiner l'effet d'un certain nombre d'hypothèses sur le modèle mathématique du monde. Le projet de modélisation est confié à une équipe de très jeunes chercheurs. La moyenne d'âge de cette équipe, c'est 26 ans. Des chercheurs du MIT, donc le MIT, c'est une institution de recherche prestigieuse aux États-Unis. Et ces chercheurs s'appuient sur une méthodologie préexistante qui s'appelle la dynamique des systèmes. C'est une méthodologie d'ingénieur qui a été conçue par Jay Forrester, qu'on voit sur la photo avec l'équipe de recherche. Et cette méthodologie, elle représente un système en termes de stock et de flux. Initialement, elle a été fondée pour aider les entreprises à mieux planifier leur stock et leur gestion en général. Qu'a dit le rapport des limites? Alors, comme je l'ai dit, ce livre, il se structure autour de la présentation d'un certain nombre de simulations. Et en gros, on peut dire qu'il présente trois grands scénarios ou trois grandes familles de scénarios. Le scénario de base, c'est celui qu'on observe sur cette diapositive. C'est un scénario qu'on appelle overshoot and collapse ou débordement et effondrement. Donc, on voit que dans un premier temps, les variables de population, production industrielle, pollution, quota alimentaire, elles croissent très rapidement. Mais il y a une variable qui connaît un effondrement assez rapide, c'est la variable des ressources naturelles. Donc en fait, assez tôt, on bute sur une limite de ressources naturelles et en conséquence, on voit que toutes ces variables qui augmentaient très vite, c'est-à-dire la pollution, la production industrielle et agricole, elles explosent et elles atteignent un pic avant de s'effondrer. Et puis les ressources naturelles, elles sont très vite épuisées. Donc sur la base de ce premier scénario, les auteurs proposent toute une famille de scénarios qui répondent aux premières limites de cette première simulation. C'est tout un ensemble de scénarios dans lesquels on a des hypothèses technologiques plus optimistes. Je vous présente ici, par exemple, un scénario dans lequel on a supposé qu'on pouvait très bien recycler les ressources naturelles. C'est ce qui fait que les ressources naturelles ne s'épuisent pas, comme dans le scénario précédent. En revanche, ce qui va exploser, c'est la pollution. C'est-à-dire que quand on bute sur une limite, on arrive à repousser une limite à la croissance, mais en fait, on bute sur une autre limite. Et donc, on a toute une série de scénarios qui ressemblent à celui-là, où en fait, on se rend compte que on arrive à dépasser un problème, mais on rencontre un autre problème. Et donc, la conclusion des auteurs, c'est qu'il ne faut pas simplement trouver des aménagements technologiques. Bien sûr, ces aménagements technologiques sont utiles, mais ce qu'il faut en réalité, ce qui est indispensable pour éviter l'effondrement du système, c'est de stabiliser la population, le produit industriel par tête et le quota alimentaire. Donc, on le voit bien ici dans ce dernier scénario. Quand on se place, quand on choisit ces hypothèses, quand on fait ces choix politiques, on se rend compte que la pollution n'explose pas. Bon, il y a quand même des hypothèses technologiques optimistes derrière ce scénario, mais elles ne suffisent pas. Par ailleurs, les ressources naturelles déclinent, mais plutôt faiblement. Et donc, les auteurs supposent qu'avec ce rythme de déclin, on a le temps de trouver des solutions.
Est-ce que... Du coup, tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment ce rapport il a été reçu dans le monde scientifique et dans le monde politique?
Oui, alors c'est un rapport qui a eu des répercussions énormes. Il a été très, très, très abondamment commenté et discuté, donc dans la presse scientifique, dans les journaux, dans les parlements, il a été beaucoup discuté. Dans le monde politique, les réactions ont été très essentiellement négatives. Elles se sont focalisées beaucoup sur les conclusions du rapport, c'est-à-dire que les acteurs politiques, ils sont pas vraiment cherché à savoir quel était le modèle mathématique, que disaient les équations. Elles se sont focalisées donc beaucoup plus sur les conclusions. On a beaucoup accusé les auteurs du rapport de vouloir geler les inégalités, c'est-à-dire de ne pas vouloir partager les ressources. Et en particulier à la conférence de Stockholm, qui a eu lieu seulement quelques mois après la publication du rapport, le secrétaire général a ouvert les discussions en affirmant que la croissance zéro n'était pas une politique viable pour aucune société. Et la déclaration issue de la conférence a tout de suite voulu concilier environnement et développement. Mais même du côté des militants, c'est-à-dire du Forum du Peuple, même du côté des représentants du tiers-monde, le rapport a été rejeté. Donc là, c'était plutôt en raison de ce qui a été décrit comme son origine douteuse, c'est-à-dire le fait qu'il était issu d'une élite industrielle et politique. En Europe, le message a été repris par un commissaire européen qui s'appelait Sico Mansholt. Alors, assez curieusement, c'est quelqu'un qui avait été très, très productiviste mais qui a vraiment repris à son compte les conclusions du rapport et qui appelait à une refonte complète des priorités européennes. Mais les réactions ont été très négatives également. Donc la lettre adressée par Sico Mansholt au commissaire, au président de la Commission européenne, n'a pas été bien comprise. Elle a été rejetée par l'ensemble de l'échiquier politique. Voilà. Et ce qui est arrivé assez vite dans les institutions internationales et dans le monde politique, c'est une sorte de digestion des conclusions du rapport. C'est-à-dire qu'assez vite, on a dit, bon, on comprend bien que la croissance indifférenciée, elle est négative, mais une croissance bien pensée, focalisée sur des bons indicateurs, ça, c'est positif. Et c'est d'ailleurs ce qui a été dit par le Club de Rome lui-même quelques années après la publication de ce premier rapport. Il y a eu d'autres rapports qui appelaient à une autre forme de croissance. Dans le monde scientifique, il y a eu un examen très précis du modèle mathématique, des équations, et plusieurs chercheurs ont fait tourner le modèle mathématique après l'avoir modifié. Mais en fait, ils ont tellement modifié les hypothèses à l'origine du modèle qu'ils sont parvenus à des conclusions complètement différentes, et en particulier à des conclusions qui appelaient même à accroître la croissance. Donc c'est le cas, voilà, de Nordhaus, qui est un économiste qui a eu le prix d'Ig Nobel d'économie en 2018, et qui lui a conçu un modèle d'optimisation intertemporelle de la croissance qui était censé prendre en compte le changement climatique, mais qui en fait appelait à une très forte croissance en considérant que c'était globalement plus bénéfique que de lutter contre le changement climatique.
D'accord. Donc en fait, c'est un rapport qui date de 1972. Donc on va d'ailleurs en fêter les 50 ans cette année. Est-ce qu'il en existe des actualisations? Est-ce qu'il y a des conclusions de ce rapport qui se sont vérifiées ou des choses qui sont encore valables aujourd'hui?
Alors, il y a eu deux actualisations du rapport, une en 1992 par les mêmes auteurs. Donc, le titre, c'était Beyond the Limits, au-delà des limites. Le modèle était un petit peu modifié, il avait pris en compte certaines des critiques qui lui avaient été adressées. Le discours, c'est que les limites avaient été déjà dépassées et puis les conclusions étaient à peu près les mêmes. Et en 2004, il y a eu une nouvelle mise à jour, donc avec trois des auteurs, puisque l'une des auteurs était l'autrice principale du premier rapport, Donella Meadows, était décédée. Il y avait une nouvelle formulation des hypothèses de la simulation, donc notamment beaucoup de considérations sur l'empreinte écologique, et un discours qui était plus économique et moins physicien que dans le premier rapport, avec l'idée que l'humanité était capable de s'ajuster à des limites. Donc physiquement, c'était possible. Voilà, il citait l'exemple de la couche d'ozone. Le problème qui était présenté, c'était que quand on arrivait à repousser des limites, eh bien, il y avait un coût économique. Et donc, à un certain moment, on n'arrive plus à s'en sortir parce qu'on investit une trop grande partie de la production industrielle pour résoudre les problèmes créés par la production industrielle.
Et du coup, il y a des choses qui sont justes aujourd'hui?
Alors, moi, de mon point de vue, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, les variables qui ont été choisies dans le rapport, c'est des variables qui, en fait, sont difficiles à quantifier. Bon, déjà, elles sont globalisées. Donc, évaluer la population mondiale, bon, on comprend bien ce que c'est, mais évaluer la pollution mondiale, en sachant que ça englobe toutes les sortes de pollution, on ne comprend pas forcément très, très bien ce que ça veut dire. Voilà. En plus, bon, je rappelle que le modèle, il avait pas, enfin, le rapport n'avait pas une vocation prédictive. Il voulait tout simplement examiner un certain nombre de comportements. Et en particulier, les auteurs disaient que les dates, enfin, la précision, les dates n'étaient pas forcément très précises. Ce qui importait, c'était de comprendre le comportement du modèle. En tout cas, il y a quand même quelques chercheurs qui ont essayé de répondre à cette question. Donc, on a par exemple ici des graphiques qui ont été produits par un chercheur australien. Et lui, il considère que les tendances historiques, elles collent avec le premier scénario, business as usual, c'est-à-dire ce qui se passe si on ne fait rien. Il y a d'autres auteurs qui ont considéré que les tendances historiques, elles collaient plutôt avec les scénarios d'amélioration technologique. Voilà, il n'y a pas de consensus là-dessus. En tout cas, moi, je pense que sur le fond, on peut dire que bah, les tendances historiques, elles sont quand même représentatives de ce qui était présenté dans le rapport, c'est-à-dire qu'on a des politiques court-termistes, on ignore les limites, la technologie a des effets rebonds, on n'arrive pas à anticiper. Donc je pense que tout ça, c'est quand même des choses qui sont assez bien établies aujourd'hui.
D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça a apporté aujourd'hui dans la pensée écologiste?
Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que on connaît très très bien ce rapport. En fait, on pense que c'était un moment très important, la publication de ce rapport. Mais en fait, entre 68 et, disons, 74, il y a eu plein d'ouvrages comme ça, notamment dans le monde anglo-saxon, des ouvrages dits catastrophistes qui abordaient exactement les mêmes thématiques, mais sans s'appuyer sur un modèle mathématique. Donc, on ne peut pas dire que le fond du rapport était vraiment exclusif à ce rapport. Voilà. Après, moi, j'ai le sentiment que l'origine douteuse du rapport, comme on l'a exprimé à la conférence de Stockholm, ça n'a pas vraiment servi son discours. C'est-à-dire que c'était à la fois un livre qui avait des conclusions très, très fortes, très radicales, donc qui était rejeté par les acteurs politiques et économiques dominants, mais en même temps, il était issu d'une certaine élite industrielle, et donc il était rejeté aussi du côté des militants écologistes. Donc tout ça est un peu compliqué. Je pense aussi que comme le rapport a été publié très rapidement, il y avait la volonté de très très vite publier ce rapport pour sensibiliser le monde entier à ces problématiques, eh bien tout ce qui était mesures politiques, tout ce qui était programme politique pour aller vers la stabilité, ça n'a pas été du tout approfondi. Et donc on a beaucoup accusé par exemple les auteurs du rapport de vouloir geler les inégalités, ce qui n'était pas vrai, mais en tout cas, c'est l'idée qui est restée. Voilà. Et rétrospectivement, ce qui est grave, je pense, c'est que ce rapport a servi d'épouvantail aux gens qui voulaient défendre la croissance et le développement. Et donc, ils ont beaucoup tapé sur ce rapport pour ensuite promouvoir une croissance belle, durable, un développement soutenable, voilà. Et je pense que c'est ça qui crée, enfin, qui nous amène à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas pris au sérieux la question des limites à la croissance.
Ok, merci beaucoup Elodie. Donc on comprend que ça fait déjà 50 ans que les scientifiques faisaient déjà des hypothèses assez justes sur nos impacts, l'impact de notre modèle de production et de consommation, et qu'ils alertaient déjà sur le fait que notre modèle de croissance nous conduirait vers une forme d'effondrement.